Quelle grâce de nous retrouver dans sa présence. Nous réalisons chaque fois que nous nous retrouvons ensemble que nous devons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être là que la bénédiction se met en marche quand nous réalisons que nous nous retrouvons pour rencontrer le Seigneur. Nous allons faire une première lecture dans Ésaïe au chapitre 26. Nous allons parler ce soir de la paix que Dieu donne. Dieu est un Dieu de paix. Notre monde ne l'a pas. Notre monde n'en veut pas, notre monde veut la paix par des moyens qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur propose. C'est pour ça que les gens sont en guerre, les gens sont détruits, les pays sont en guerre, les familles sont en guerre, les gens sont en guerre avec eux-mêmes. C'est pour ça que les gens sont malheureux, parce qu'ils sont en guerre avec eux-mêmes. Dans Ésaïe, au chapitre 26, au verset 3, il y a une parole qui dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les émotions, vous le comprendrez. À celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est plutôt dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Nous allons voir un autre texte où un homme ne pouvait pas avoir la paix parce qu'il n'était pas à sa place. Dans Jean au chapitre 20, c'est le jour de la résurrection. C'était le premier jour de la semaine, un dimanche, Jean chapitre 20, verset 19. C'est une histoire merveilleuse qui nous indique comment retrouver la paix avec le Seigneur et la communion avec Dieu. Ou la découvrir, si vous ne l'aviez pas encore découvert. Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine... Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Le Seigneur Jésus va adresser à Thomas une parole, pas une parole de reproche, une parole. Comme c'est le cas chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, que ce soit un riche, que ce soit un pauvre, que ce soit un religieux, que ce soit un laïc, que ce soit un militaire, que ce soit n'importe qui d'autre, un homme, une femme, un enfant, un vieillard, un religieux comme Nicodème ou la Samaritaine, une parole. Ce que nous réalisons lorsque nous sommes dans un moment comme celui-ci, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est que nous avons besoin de rencontrer le Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'améliorer la doctrine de notre dénomination, de rencontrer quelqu'un, un homme qui présente l'Évangile, ou une assemblée, ou un certain nombre de chrétiens, ce qui n'est pas forcément interdit. Ce que nous avons besoin, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Thomas avait besoin de re-rencontrer le Seigneur. Il avait marché avec lui pendant 3 ans et demi, il avait vu des choses merveilleuses, mais voilà, il avait traversé un moment difficile, il est appelé l'apôtre qui doutait, mais Je pense qu'on est tous à la même enseigne. Il avait besoin d'une parole. Jésus aurait pu lui faire de nombreux reproches. Je pense que Jésus avait l'autorité et la pédagogie pour lui faire de très sévères reproches. Vraiment sévères. Mais il a juste dit une parole qui peut ce soir être une parole pour quelqu'un. Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et cette parole, en même temps qu'elle a fait du bien, énormément de bien à Thomas, puisque Jésus s'est révélé comme étant Dieu, puisqu'il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est un D majuscule. Thomas est en train de réaliser que Jésus est vraiment ressuscité, que chaque fois qu'il parlait de sa mort, de sa crucifixion, de ses souffrances, de sa résurrection, de son royaume, qu'il reviendrait, qu'il fallait qu'il souffre, mais qu'un jour il serait sur la croix et qu'un jour il reviendrait chercher. Il savait que tout ça, ça tenait debout. Il a, en une parole et en un contact avec Jésus, été complètement délivré de son incrédulité. Cette parole a dû faire beaucoup de bien aux autres qui étaient là à côté. Vous savez, parce que quand Dieu fait du bien à quelqu'un, je crois que ceux qui sont autour, ils sont éclaboussés par la bénédiction. Vous ne croyez pas que les autres, ils ont dû dire quand même, on a un Seigneur merveilleux. Eux, peut-être, ils attendaient. Il n'était pas là, Thomas. Il va se faire gronder quand Jésus va venir. Il n'était pas à sa place. Et c'est pas bien. Je ne sais pas s'ils ont pensé ça. Je pense que le débat est ailleurs. Mais on peut toujours se poser des questions. Il n'était pas là. C'est vrai que ce n'était pas bien. Parce que quand on n'est pas à sa place, on perd du temps. Est-ce que vous le savez qu'on peut perdre des jours, des années? Il m'arrive, moi, d'entendre des personnes âgées qui me disent « j'ai gâché ma vie ». Je vous ai souvent parlé de ce monsieur qui était en face, là, monsieur Villèle, qui est mort à 87, 88 ans. Il avait 27 maisons dans le quartier. Et une des dernières paroles qu'il m'a dit, c'est « j'ai gâché ma vie ». Et je lui disais « mais écoutez, au moins ne gâchez pas votre éternité ». Parce que, bon, gâcher 87 ans, c'est pas méchant. Mais au moins ne gâchez pas votre éternité. Et cet homme, il a gâché son éternité. Il voulait de Dieu, mais il ne voulait pas de Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'en acceptant Jésus-Christ, il fallait qu'il règle le problème de son péché. Et il avait gâché sa vie. Et ça fait mal au cœur quand vous voyez des gens qui ont de l'argent en pagaille et qui vous disent « ma vie, ça a été un gâchis ». On peut perdre du temps. Thomas, il a perdu 8 jours. Bon, c'est pas grave, 8 jours. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? 8 jours, c'est pas méchant. Mais on peut perdre des mois. On peut perdre des années. On peut passer à côté d'une grâce que Dieu est prêt à nous accorder. Car on a chanté « Dieu fait les choses en son temps, que le Seigneur il est là pour nous bénir ». Et ça dépend que de cette attitude de cœur, d'être là, de se retrouver. Ils étaient dans la crainte, tous étaient dans la crainte. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir. Peut-être que vous avez des craintes. Il y a des gens qui ont de la crainte. Ils ont de la crainte de marcher dans la rue. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont peur dans la rue? Il y a des gens qui ont peur. Alors est-ce que ça s'explique? Ben oui. Est-ce que Dieu peut délivrer de la crainte? Ah ouais. Et la présence de Dieu a ce pouvoir, quel que soit le nombre, à partir du moment où nous sommes 2 ou 3, le Seigneur est là. Et il a un désir, celui de nous amener à être près de lui. Jésus n'a pas dit à Thomas, écoute Thomas, là quand même, franchement, avec tout ce que je t'ai enseigné pendant 3 ans et demi, franchement, tu me fais de la peine. Est-ce que Jésus aurait pu lui parler comme ça? Ben oui. Tu sais, Thomas, je t'ai choisi, mais je ne sais pas. Non, avance. Ah ben, ce soir, si le Seigneur a quelque chose à vous dire, c'est approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Peut-être que vous poursuivrez ce moment chez vous et que vous continuerez à avancer votre cœur près de lui. Jésus a dit à Thomas, avance ici. Ton doigt. Je ne sais pas si les autres apôtres ont parié que quand il allait le rencontrer, ça allait peut-être chauffer. Non. Les autres, ils ont été bénis. Et je voudrais ce soir que vous compreniez que la bénédiction, elle passe par ce moment où on est à notre place. Même si ça ne va pas. Est-ce que c'était bien qu'il soit enfermé à double tour dans la chambre haute? Est-ce que c'était bien qu'il soit rempli de crainte? Vous avez vu? Ils étaient remplis de crainte. Ils étaient remplis. Bon, c'est sûr qu'il y avait de quoi comprendre. Ils avaient arrêté et tué Jésus. Ils ont dû se dire, peut-être que le prochain, c'est nous. Est-ce qu'ils pouvaient penser ça? Bien sûr. Et le Seigneur a forcé la porte. Et c'est une image que j'ai toujours aimée. Parce qu'on voit que Jésus, ce n'est pas son habitude de faire que de forcer les portes. Quand vous voyez la lettre dans l'Apocalypse, il se tient à la porte et il frappe. On voit que le Seigneur respecte vraiment notre liberté. On veut avancer, et bien on avancera. On ne veut pas, et bien on s'arrête. Il ne va pas nous forcer. Vous n'avez jamais vu Jésus forcer quelqu'un. Même lorsqu'il parle de la perdition éternelle, il ne dit pas le jour où la porte sera fermée, je vais vous forcer, les derniers jours je vais vous forcer. Il dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. S'il y a bien une chose que Dieu fait, c'est qu'il ne force personne, il n'oblige personne. Même les anges déchus qui ont voulu suivre Lucifer, les démons, eh bien Dieu a respecté leur libre arbitre. Vous avez vu, Dieu a toujours respecté le libre arbitre. Mais voilà, la grâce de Dieu fait que dans des moments où nous sommes dans la crainte, dans des moments où nous souffrons, dans des moments où nous ne sommes pas très en forme, est-ce que ça peut arriver d'avoir des moments où on n'est pas trop en forme, hein? Eh bien, il ne dit pas, mais non, j'attends. Il entre. Moi, j'aime cette façon dont le Seigneur est capable de rentrer sans casser les portes. Vous avez vu? Vous avez vu comment il est rentré? Est-ce que vous vous imaginez le choc que ça a dû être pour les 10 qui étaient là, dans cette chambre? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de parler, ils étaient en train de se critiquer, ils étaient en train de manger, ils étaient en train de boire une tisane. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Est-ce qu'ils étaient en train de remettre tout en question? Et voilà que dans la crainte, dans la peur, le Seigneur est rentré sans passer par les portes. Est-ce que vous pouvez dire au Seigneur, je te donne moi aussi l'autorisation d'entrer sans que tu passes par la porte ouverte? Est-ce que vous êtes capable de dire au Seigneur, viens dans ma vie, n'importe quand, dans mes moments difficiles, dans mes moments de crainte, dans mes moments de doute, dans mes moments de peur, Seigneur, je t'autorise à venir dans ma vie quand tu veux, pour me donner ta paix. C'est ça qui est extraordinaire. Normalement, n'importe quel autre homme serait rentré d'une façon un petit peu plus sévère et avec certainement beaucoup de reproches. Parce que quand même, Jésus a vécu, de Gethsémané au calvaire, Jésus a vraiment vécu des moments d'une atrocité, d'une intensité, d'une douleur que personne ne peut calculer. Et ce Seigneur qui avait dit, vous ne pouvez pas rester avec moi, quand Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas trop loin dans le jardin de Gethsémané, les trois quand même qui se sortaient du lot un petit peu par rapport à des expériences qu'ils avaient faites, à la transfiguration, et ailleurs, il y en avait trois quand même qui sortaient un petit peu du lot. Ces trois-là, au moment où Jésus avait besoin de lui, deux, ils se sont endormis. Jésus leur dit, vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Il leur a dit ça, je ne sais pas sur quel ton, mais Jésus avait besoin d'eux. Et la Bible dit que c'est catégorique, tous l'ont abandonné. Tous. Est-ce qu'il méritait d'être abandonné? Non. Et là, il entre. Bien sûr qu'il est glorifié. C'est le moment le plus beau de l'histoire. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Je ne vous dis pas quand même, quand on a compris l'affaire, l'espérance que ça peut donner à quelqu'un. Vous ne croyez pas, hein? Quand vous avez vraiment compris ce qu'on est en train de lire, moi je peux dire, ça peut changer le moral de quelqu'un. Vous voyez? Et là, il entre. Et la première chose qu'il dit, la paix soit avec vous. Ce n'est pas trop étonnant quand on le connaît, puisque c'est un Dieu de paix. Connaissez-vous cette paix? L'avez-vous? L'avez-vous perdue? L'avez-vous laissée de côté? N'avez-vous pas réalisé la grandeur de la bénédiction qu'est la paix? Est-ce que vous échangeriez quelque chose contre la paix? Y a-t-il quelque chose qui a plus de valeur que la paix? Y a-t-il quelque chose qui a plus de valeur que le pardon? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait se lever et me dire, moi, Monsieur Gauche, je connais quelque chose qui a plus de valeur que la paix, je connais quelque chose qui a plus de valeur que le pardon. Venez, ça m'intéresse. Il n'y a rien de plus grand que la paix. Il n'y a rien de plus grand que le pardon. Et on voit dans le cœur du Seigneur, à partir du moment où ce sont ses enfants, ce sont ses apôtres, oui, ils se sont trompés, oui, ils se sont égarés, oui, ils ont fait une erreur de jugement, comme le fils prodigue qui a fait une erreur de jugement. Vous savez, il a dit, voilà, je vais récupérer ma part. C'est une erreur qu'il a fait. Il a cru que, en fuyant sa famille, en fuyant son père, en fuyant son frère, eh bien, en partant loin, il allait réussir. On appelle ça une erreur de jugement. Et il s'est retrouvé vraiment dans le pétrin, comme on dit. Et il a eu l'idée de rentrer en lui-même, Je crois qu'à ce moment où les apôtres étaient dans la chambre haute, quelles que soient les discussions qu'ils avaient, ils devaient quand même beaucoup réfléchir, parce qu'ils avaient quand même passé 3 ans et demi avec lui, et je suis persuadé que la grâce de Dieu permettait qu'ils se rappellent les choses. Vous voyez, Madame Zama, elle est décédée. Moi, dans la semaine, j'ai repensé à plusieurs paroles qu'elle m'avait dites, parce que quand on a discuté avec quelqu'un, on se rappelle. Vous voyez, le jour où Madame Delabre, elle partira, on pensera à tous ces bouquets de fleurs qu'elle a mis, heureusement, qu'elle ne nous avait pas fait payer. Hein. Mais c'est comme ça. Et là, ils devaient se rappeler. Ils ont dû se rappeler tout ce que Jésus leur avait dit. Mais quand même, vous ne vous rendez pas compte. Je ne sais pas, je suis persuadé même que ça a dû frotter un petit peu, vous voyez, dans les discussions. Mais il est entré. Est-ce que vous permettez que Jésus entre ce soir dans votre cœur? Des fois, on dit au Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'une parole. Mais on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Le Seigneur pourrait nous dire, mais tu me demandes de te parler, tu es en train de courir. Tu fais que courir à droite, à gauche. Parce que pour écouter Dieu, il faut peut-être s'arrêter, il faut s'asseoir. C'est écrit ça, de s'asseoir, de s'arrêter. Est-ce que c'est écrit? Eh ouais. Et là, ils étaient au bon endroit, ils n'étaient peut-être pas dans le meilleur état d'esprit, mais ils étaient quand même au bon endroit. Combien de gens m'ont dit, oh, vous savez, j'avais pas envie de venir à l'église, j'avais pas envie de lire ma Bible, j'avais pas envie de prier, mais je l'ai fait et je me suis fait beaucoup de bien. Et le Seigneur m'a renouvelé. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne va pas trop, mais ils sont à l'endroit où Dieu les veut. Et là, malgré la crainte, ils vont passer d'une crainte réelle, d'une vraie peur, à une grande joie. Au verset 20, il nous dit, ils furent dans la joie. Voyez comme quoi le Seigneur est capable de guérir instantanément. On passe de la crainte, de la confusion, de la tristesse, d'un sentiment, bien sûr, qui nous va pas, à quelque chose de joyeux. Est-ce que c'est pas ça que Dieu veut faire ce soir? Je sais pas où vous en êtes, mais Dieu, il a une parole pour vous. C'est peut-être cette parole qui va vous amener à améliorer votre communion avec Dieu. Personne n'aurait misé sur cette bande d'apôtres, et surtout pas sur Thomas. Et pourtant, l'histoire raconte que Thomas, après cette affaire, est parti et qu'il a évangélisé les Indes, qu'il est mort en martyr, mais que ça a été un des serviteurs de Dieu les plus remarquables qui ait jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé, au contact de Jésus-Christ, qu'il était Dieu. Et je crois que quand on a compris ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est venu, vous voyez, dans un mois, pile à peu près, oui, un mois pile, on va fêter la naissance de Jésus. Mais c'est comme un film qu'on voit que le début. On parle que de la venue. Ça vous est déjà arrivé de regarder que le début d'un film, les 10 premières minutes? Oui, s'il ne vous plaisait pas. Mais je veux dire, imaginez un film qui vous plaise et que vous voyez que le début. Ça n'a aucun sens. Eh bien, voyez, les gens qui fêtent Noël aujourd'hui, c'est exactement pareil. Ils voient le début, mais ils ne comprennent rien à la fin. Alors on parle de Jésus, ou du petit Jésus, ou du Sauveur, ou du Rédempteur. Mais on n'a pas compris que vraiment, l'histoire, elle tient debout quand on va à la croix et à la résurrection. Et c'est là que l'on comprend vraiment tout le film et que l'on comprend vraiment qu'est-ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez en paix. À celui qui est ferme dans ses pensées, par rapport à ce que Dieu dit, tu assures la paix. Car je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de procurer la paix. Parce que c'est bien de la recevoir. Mais la question que je dois nous poser, pour conclure, c'est ça. Est-ce que je procure la paix? Est-ce que vous croyez que s'ils étaient sortis avant la venue de Jésus, là, ils auraient fait du bien aux autres? Mais après, là, vous ne croyez pas que quand ils sont sortis de la chambre haute, est-ce que vous croyez qu'ils avaient peur? Mais non, ils avaient peur. Après, ils étaient joyeux d'avoir subi des outrages. Vous avez vu ça? Ils n'avaient plus de crainte. Pourquoi? Parce que le Seigneur leur avait promis. Il leur avait promis d'être avec eux. Non seulement il leur parle de paix, mais il leur parle de recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire de recevoir cette vie du Saint-Esprit. Car lorsque l'on vient dans un lieu comme celui-ci, nous apprenons normalement à rencontrer le Christ. Mais ce n'est pas pour le rencontrer et puis pour le revoir que dimanche matin ou jeudi prochain. C'est pour le rencontrer, pour qu'il demeure avec nous. Il a dit, il demeurera avec vous, il sera en vous. Le Saint-Esprit sera tous les jours avec vous. Et c'est ça que nous avons besoin. Le Seigneur s'autorise parfois à forcer la porte, et pas pour repartir. Il veut rester avec vous. Il veut que vous ayez la paix, parce que notre monde est un monde de ténèbres, notre monde est un monde perdu, et les gens ont besoin que vous leur procuriez la paix. Est-ce que vous croyez que les gens dans le monde ont la paix? Non, les gens n'ont pas la paix. C'est pour ça que les gens boivent, c'est pour ça que les gens s'étourdissent, c'est pour ça que les gens se droguent. Vous croyez qu'ils se droguent parce qu'ils veulent se droguer? Non. Ils ont besoin de s'étourdir. Sinon, ils deviendraient fous. Et bien sûr que ça fait qu'empirer le malaise, le drame, la difficulté, etc. Mais le Seigneur, lui, il vous donne la paix, il vous la donne. Je vous donne ma paix. Ce soir, vous pouvez dire, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Moi, je sais que c'est la première expérience que j'ai faite avec Dieu. J'ai dit au Seigneur, donne-moi la paix. Et pendant, c'était pendant une prédication, et pendant la prédication, j'ai reçu la paix. Dieu n'a pas attendu la fin de la réunion. Le Seigneur, il l'a envoyé de suite. Vous savez, il y a les colis express à la poste. Voilà, de suite. Et moi, je dis, ça, c'est bien. De suite, pendant la prédication, j'ai reçu la paix. Je ne m'attendais pas du tout, ça m'est tombé dessus, mais c'était quelque chose de... Je savais que ça ne pouvait pas venir de moi, je ne m'étais pas concentré. T'as la paix, t'as la paix, t'as la paix, sois zen, t'as la paix. Non. Il y a des gens, vous voyez, ils cherchent la paix en eux-mêmes. Voilà, tu es en paix, tu es en paix, tu n'affoles pas. Non, c'est pas la méthode de Coué. Hein. C'est la méthode divine. Ça vient sur vous. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix, c'est également un fruit. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour et la paix. C'est le deuxième fruit qui est cité, car cette communion avec Dieu donne la paix. Donc, Thomas a été inondé de paix. Il a été inondé de grâce, il a été inondé de joie, il a été inondé de reconnaissance. Vous vous rendez compte, il aurait dû, quand il a vu Jésus, peut-être qu'au bout de, je ne sais pas, sur le moment, je ne sais pas le temps que Jésus a pris pour lui dire, bon, alors Thomas, hein, quand vous avez vu, c'est écrit, hein, Jésus dit la paix soit avec vous, puis il dit à Thomas, mais entre le temps où il a dit la paix soit avec vous et le temps où il s'est adressé à Thomas, Thomas, vous savez, dans la tête, on réfléchit vite. Qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que peut-être les apôtres, ouais, t'étais pas là, mais tu te rends compte à côté de quoi t'es passé, tu te rends compte, mais c'est toujours pareil, de toute façon, t'es jamais là quand il faut. Vous savez, les reproches des autres. Est-ce qu'on peut nous faire des reproches? Est-ce que les autres chrétiens peuvent faire des reproches? Moi, tout à l'heure, j'ai vu un chrétien, vous voyez, c'est pareil, il a été blessé par des remarques de frères. Et vous savez, des fois, on peut blesser les gens sans le vouloir. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous avez déjà blessé des gens? Est-ce que vous avez déjà blessé? Ben oui, mais vous, moi, et nous avons été blessés parce qu'on est maladroit, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas comment les gens fonctionnent. Et là, je suis sûr que les apôtres ont dû dire, mais tu sais, franchement, moi, je ne sais pas comment Dieu va continuer à t'utiliser, Thomas. Ça ne m'étonnerait pas que tu passes à la trappe la prochaine fois qu'on va le rencontrer. Vous savez, il y a toujours des gens pour vous décourager. Bon, des fois, on a besoin d'être repris. Est-ce qu'on a besoin d'être repris? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'être corrigé? Est-ce que vous acceptez d'être repris? Parce qu'attention, il y a la parole de sagesse, de réconfort, de consolation, mais nous voyons souvent aussi Dieu dans sa parole reprendre et même reprendre sévèrement. C'est écrit, Dieu demande au pasteur de reprendre, d'avertir, d'instruire, etc., de corriger selon les besoins, etc. Mais une chose est certaine, la façon dont Dieu nous parlera, que ce soit une parole de consolation ou que ce soit une parole sévère, ça nous fera toujours du bien. Il n'y a que Dieu qui est capable d'agir de cette façon-là, qu'il nous parle dans sa bonté ou qu'il nous parle dans sa sévérité, ça va toujours nous faire du bien. Ça, c'est la pédagogie du Seigneur. Il ne peut pas se tromper. Il connaît ce qui se passe dans notre cœur. Il sait ce que vous êtes en train de vivre. Il sait si vous êtes vrai ou il sait si vous êtes hypocrite. Nous, on peut faire la comédie. Cet après-midi, on a parlé sur le roi Manassé, cet homme qui a été un roi juif, un roi d'Israël, qui a été pire que les rois païens. Pire, pire, pire. On ne peut pas trouver plus mauvais. Et pourtant, Dieu va l'emmener en prison, et dans la prison, il va s'humilier profondément, et il est dit que le cœur de Dieu s'est laissé fléchir. Et il le réhabilitera. Moi, je ne l'aurais pas réhabilité, moi, je l'aurais laissé en prison, même si c'était humilié, même s'il avait demandé pardon, je dis, c'est bon, c'est bien, on t'a pardonné, mais reste en tôle, reste ici. Ah, moi, c'est sûr, je me connais. Mais Dieu savait qu'après, cet homme se mettrait à bâtir, à construire, à réparer, à faire du bien. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et vous savez, ce soir, une chose est sûre, Dieu veut que vous le rencontriez à lui. C'est le but des réunions, que vous le rencontriez, Jésus-Christ. Mais la deuxième, c'est que vous pouvez perdre du temps, vous pouvez perdre beaucoup de temps. Si vous êtes, par exemple, c'est vrai que Dieu dénonce souvent l'hypocrisie.
On peut être spirituel à l'église et puis après très léger à la maison. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'il en est parlé dans la Bible de l'apparence de la piété? Elle en a parlé. Vous voyez, on est profond à l'église et des prières à faire pleurer des pierres. Et puis après, à la maison, on est d'une légèreté. Et ça, Dieu va avoir beaucoup de mal à renverser les choses. Mais voyez, je crois que les 10 qui étaient restés, Thomas qui n'était pas là, il avait un moment difficile. Il avait un moment difficile. Il avait un moment difficile. Il n'a pas traîné longtemps. Il a traîné. Il est arrivé. Et le Seigneur a attendu encore 8 jours. Pourquoi 8 jours? Pourquoi 8 jours? Pourquoi 8 jours? Pourquoi pas 24 heures? Pourquoi pas 2 jours? 8 jours après. Mais pourtant, Jésus est resté combien de jours après la résurrection sur la terre? 40 jours. C'est ça? 40 jours. Déjà, 8 jours, c'est cas. Et vous voyez, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais comme on l'a chanté, Dieu fait les choses en son temps. Alors je ne sais pas la prière que vous faites monter vers Dieu, devant tout seul ou devant les autres, moi si je ne vois pas. Alors là, ça tombait bien. Cet homme, il avait besoin d'une réponse. Je ne pense pas que c'était un rebelle. Il était en souffrance. Il avait besoin d'une parole. Il y a des gens qui disent, oui, mais dans la Bible on voit, il y en a qui a fait ça, il y en a qui a dit ça, moi je fais pareil. Je ne pense pas qu'il faut faire comme ça. Quand je lis l'histoire, je lisais cette semaine l'histoire de Anne, quand Élie la réprimande, elle dit, mais c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler comme ça. Quand on souffre, des fois on dit des choses que les autres ne comprennent pas. Mais voyez, Dieu a béni cette femme. Et puis après, il y a ceux qui sont rebelles. Oui, si Dieu existait, et si et là. Voilà. Là, on ne tourne plus dans la rébellion, dans la contestation, que dans le bon questionnement. Thomas, il a besoin. Il a besoin, et de toute façon, la preuve, c'est que Dieu va l'approuver, puisque quand il va le rencontrer 8 jours après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Thomas pendant ces 8 jours, mais ça a dû quand même gamberger, comme on dit. Voyez. Mais Dieu avait entendu, vous voyez. Jésus n'était pas là, mais ça nous prouve une fois de plus que Dieu entend tout. Est-ce que ça vous rassure que Dieu entende tout? Ça vous rassure ou ça vous panique? C'était notre discussion hier dans la voiture avec Isabelle. Est-ce qu'on est rassuré ou paniqué par le fait que Dieu entend tout? Ben oui, normalement on doit être rassuré. Parce que ça nous permet énormément de nous corriger. Dans le Thomas, il dit, si je ne vois la marque, si je mets mon doigt, dans la, etc., etc. Et qu'est-ce que Jésus fit? Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Est-ce que vous vous rendez compte l'expérience que cet homme est en train de vivre, est en train de faire? Pas du tout de culpabilité, pas de reproche, juste avance. Je veux que tu sois près de moi. Écoutez cette parole ce soir. C'est peut-être pour quelqu'un qui a besoin d'une révélation plus grande. Avance, avance-toi. Avance-toi au calvaire, ouvre tes yeux, regarde ces mains meurtries, regarde ces pieds crucifiés, regarde les 7 paroles de Jésus sur la croix, médite-les. C'est ça, avancer sa main, c'est ça, avancer son doigt dans le côté. Vous vous rendez compte, il devait être, je ne sais pas s'il était tremblant, je ne sais pas dans quel état il était, mais ça devait être quelque chose de merveilleux, cette affaire-là. Vous vous rendez compte, et là, il réalise que cet homme-là, ce simple homme qui faisait quelques miracles quand même, bon, c'était bien mal, mais que c'était le Dieu du ciel et de la terre. Est-ce que vous réalisez l'expérience qu'il est en train de faire? Et Jésus va beaucoup plus loin puisqu'il dit, mais attendez, tu es content Thomas, mais moi je vais vous dire, il y a quelque chose de plus grand. Heureux celui qui n'a pas vu. Ça veut dire que cette expérience extraordinaire que Thomas a faite le soir où il a rencontré Jésus, nous pouvons la faire d'une manière spirituelle en étant soucieux de le rencontrer par le biais des réunions, je le répète, mais par le biais de votre culte personnel. Vous savez, en lisant les évangiles, demain vous pouvez avancer votre main, vous pouvez avancer votre doigt, vous pouvez, comme ce centenier chargé des crucifixions à Jérusalem, quel boulot, dire assurément. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il savait, cet homme, que ça ne pouvait pas être un homme comme les autres. Et je suis convaincu, mes frères et sœurs, vous qui êtes venus ce soir, avancez-vous. Comme Jésus a dit à Pierre, avance en pleno, mais avance. Demain, prends les, peut-être les quatre évangiles, les sept ou huit derniers chapitres. Vous savez, de chaque évangile, parle de la passion, de la mort, de la condamnation, du procès, voilà, d'une manière qui se complète. Prenez ces quatre fins des évangiles, les derniers chapitres, lisez-les. Ça sera votre façon, à vous, d'avancer votre main, d'avancer votre doigt, de vous avancer, et vous allez voir une parole, et Dieu va vous honorer. Je ne sais pas comment Dieu va vous parler, comment Dieu va intervenir, comment Dieu va vous toucher. Mais s'il l'a fait pour Thomas, il le fera pour vous. Ne soyez pas incrédule. Ne dites pas « je lis plus ». On l'entend des fois, nous, en tant que pasteur. « Oh, je lis plus la Bible. Dieu m'a pas béni comme je... » Bien sûr, heureusement. Heureusement que Dieu ne nous bénit pas. C'est les enfants. Qu'est-ce que vous donneriez un cutter à Élie? Si Élie venait vous voir et qu'il vous dise « Papa, il ne veut pas me donner un Kalachnikov. Est-ce que toi, tu peux me donner un sabre, un couteau, un cutter? J'ai envie de m'amuser avec Esaïe. » Mais qu'est-ce que vous feriez? Oh, t'attends que ça. Est-ce que vous lui donneriez? Pourquoi? Mais pourquoi vous ne donneriez pas? C'est quand même le fils du pasteur. C'est... Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'il se blesserait. Mais blesserait pas mal même. Eh bien, voyez, souvent nos prières, elles sont comme ça. Si Dieu ne nous a pas donné certaines choses, c'est parce que ça nous aurait fait plus de mal que de bien. On ne le réalise pas. Les enfants ne peuvent pas le réaliser. Mais les adultes, ils le savent. Et il y a des enfants spirituels. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu n'a pas encore béni. Mais lorsqu'on mûrit avec Dieu, on sait très bien que si Dieu ne nous a pas donné certaines choses, c'est vraiment pour notre bien. Alors, que vos prochains cultes personnels ne soient pas des cultes pour dire « voilà, je fais mon culte personnel », mais que vous puissiez dire « moi aussi, je veux, Seigneur Jésus, que tu rentres davantage dans ma vie. C'est toi que je veux, c'est ta personne. Je veux te rencontrer, je veux m'avancer, je veux réaliser que tu n'es pas un homme, tu es Dieu, et tu m'aimes, et tu vas m'aider. » Alléluia, on ferme les yeux quelques instants. Seigneur Jésus, merci pour la pédagogie que tu as eue pour toucher les hommes, tous les hommes. Comment tu parlais à Nicodème? Comment tu parlais à une prostituée? Comment tu parlais à un militaire? Comment tu parlais à un enfant? Seigneur, nous croyons que tu sais nous parler. Tu sais comment nous fonctionnons. Tu sais quand est-ce que tu dois nous consoler, nous prendre dans tes bras. Quand est-ce que tu dois nous reprendre? Seigneur, c'est toi que nous voulons rencontrer, toi seul. Dans le secret de notre chambre, même si tu dois forcer, pour te présenter, nous acceptons, Seigneur, nous l'acceptons. Tu savais qui viendrait ce soir, tu vois cet auditoire, tu vois tous ceux qui peut-être écouteront cette prédication, qui sont comme Thomas, qui sont en train de prendre du recul depuis 8 jours, ou 8 mois, ou 8 ans peut-être. Seigneur, tu sais comment les atteindre. Alors nous te prions, Seigneur, d'atteindre les hommes et les femmes qui se sont éloignés de toi, qui ne sont plus à ta place, et pourtant à qui tu veux redonner la paix. Oui, tu es un Dieu qui bénit. Nous le savons que tu es mort, que tu es ressuscité, que tu es assis sur ton trône, que tu règnes couronné de gloire et d'honneur. Et ce que tu faisais sur la terre, tu le fais aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Alors s'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de mettre sa main dans ton côté, donne-lui la joie, par les évangiles, de te rencontrer à toi et à toi seul. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.